au cours de ces premières vêpres-là de notre circuit géologique ou liturgique sur le thème de Jérusalem comme lieu saint singulier. Alors on descend, on passe sur la bordure ouest et puis sud de Jérusalem. On arrive au point de rencontre des trois ouadis là, qui modèlent la cuvette de Jérusalem, la Géhenne, le Tyropéon et le Cédron. Et puis alors on remonte par le Tyropéon et puis on arrive au mur occidental et on traverse le quartier juif. Et je crois que ce serait intéressant au passage de dire quelques mots sur les fouilles tout à fait passionnantes qui ont été faites depuis 1967. Alors ce que je dis ici n'est pas dans la brochure, je l'ai inséré dans le programme parce que les fouilles qui se sont faites après la guerre des six jours dans le quartier juif sont passionnantes. Et alors j'ai inséré ce que je vais vous dire maintenant dans les premières vêpres de ce circuit géologico-liturgique qu'on fait sur Jérusalem, sur le thème Jérusalem comme lieu saint au singulier. On a fait le Saint-Sépulcre le matin et puis en l'après-midi, comme les premières vêpres, on circule sur la bordure sud-ouest de Jérusalem, on descend jusqu'au point de jonction des trois ouadis, là, en suivant la GN, et puis là, on remonte au Tyropéon, on voit au passage des fouilles qu'on a faites dans la ville de David, on continue, on passe le mur des Lamentations, et puis on traverse alors le quartier juif. Et alors là, en remontant du mur des Lamentations, on tombe sur une église de l'époque des croisades, qui a été admirablement remise en valeur au cours des travaux de restauration du quartier juif. Ils ont trouvé cette église, ils l'ont mise en valeur comme jamais peut-être les chrétiens. Bon, j'ai l'habitude de dire quelques mots alors du judaïsme à Jérusalem. Vous êtes devant le mur des Lamentations, il y a quelque chose peut-être qu'il faudrait mettre au point. Une chose que j'entends toujours dans le dialogue judéo-chrétien, c'est évident qu'il n'y a pas de rapport entre la dispersion géographique des juifs et puis la naissance du christianisme. La dispersion est bien antérieure, c'est trop évident. Et d'ailleurs, il suffit de lire les Actes des Apôtres pour s'apercevoir que saint Paul prêche dans toutes les synagogues autour du bassin méditerranéen. Bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la dispersion? Est-ce que c'est d'abord le phénomène géographique? Ou bien est-ce que ça n'est pas d'abord l'absence de centre? Or, il n'y a pas de doute que le temple était au maximum de son importance dans le judaïsme quand il a été détruit par Titus en 70. Et le deuxième temple est plus important que le premier, il était le centre non seulement religieux, mais aussi national, de toute une entité juive justement dispersée. Et il faut voir les pèlerinages formidables qui venaient à Jérusalem, pas de tous les coins du monde civilisé, à cette époque-là, lisez le récit de la Pentecôte. Et quand le temple a été détruit, alors c'était vraiment une catastrophe, et il n'y a pas de joie complète dans le judaïsme, parce que le temple n'existe plus actuellement. On casse un verre au cours d'un mariage, et parce que le temple n'existe plus. On laisse toujours une pierre non taillée ou non peinte dans la maison qu'on a construite en souvenir du temple. Et la prière juive est pleine de nostalgie pour le temple qui a été détruit et d'espérance pour le temple qui sera reconstruit. On ne peut pas nier ça. Et au mois de juillet, à peu près, le 9 du mois de Av, ils ont le calendrier lunaire, il faut voir comment on crie les lamentations de Jérémie devant ce mur qui n'est pas qu'un mur de pierre. Supposons qu'il soit... Vous savez que les parachutistes avaient mis le drapeau sur le temple. Dayan l'a fait descendre immédiatement et un texte a été publié par les autorités religieuses disant qu'on n'avait pas l'intention de nuire au lieu saint des autres religions. Mais il n'empêche que l'espérance ne peut pas s'orienter comme elle a toujours été vers le temple. Mais supposons qu'on s'en empare, il faudrait rétablir les sacrifices. Il faut bien dire que c'est assez anachronique. Justement, j'écoutais, on lit la parachate Vayikra dans le Lévitique et à la télévision, justement avant-hier, je suivais les débats sur le sujet entre Maïmonide et puis la Kabbale, certains disant que je ne vais pas entrer dans tout ça, mais les sacrifices posent un énorme problème. Et puis ensuite, il faudrait des prêtres pour et quel est celui qui pourrait assurer sa descendance lévitique à Aaronique. C'est extrêmement difficile de l'approuver. Et supposons qu'il le fasse, il faudrait qu'il soit le taux de pureté rituelle. Vous savez, on est dans... il faudrait la vache rousse, ce qui suppose le temps. Enfin bref, on est vraiment roué. Mais... Et pour nous chrétiens, alors, le voile s'est déchiré, ce qui s'est passé une fois pour toutes est rendu présent à tous les points de l'espace et du temps jusqu'à ce qu'il revienne. Mais alors moi je viens comme hypnotisé par ce mur. Cette espérance qui a dû traverser les siècles, qui arrive devant ce mur, et puis nous, quand je vois les lieux saints, est-ce qu'on n'est pas parti un peu trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de dérapage prématuré dans le sublime en oubliant nos racines? Et je vois ici ce peuple accroché à son identité, dans une peur panique de la perdre, et qui, après son espérance, malgré tous les efforts qu'on a fait pour la faire perdre son identité, malgré tous les efforts qu'il a fait lui-même, ben, il arrive maintenant. J'ai vécu une journée extraordinaire dans ma vie. C'est après la guerre des six jours, on avait ménagé dans les champs de mines un chemin, et des centaines de milliers de personnes ont défilé, non pas du tout dans un enthousiasme hystérique, mais comme n'arrivant pas à y croire, voulant palper, voulant toucher ce mur. Enfin bref, c'est un sujet de méditation. À Jérusalem, quand on n'a pas beaucoup de temps, il y a le tombeau ouvert, on y entre pour en sortir, on en parlera. Il y a le voile déchiré, la mosquée d'Omar, le rocher du Saint des Saints, et puis il y a ce mur. Et alors sur le quartier juif, quelle est son origine? Eh bien avant les croisades, les juifs étaient du côté de la porte des lions. Et c'est là que les croisés ont enfoncé le mur. Et on s'en souvient, les chroniques arabes et juives sont pleines de souvenirs épouvantables de l'arrivée des croisés. Les juifs ont été bel et bien massacrés. Alors il y a toujours eu une présence juive à Jérusalem, peut-être une petite éclipse du côté des croisades. Et alors quand est-ce que ce quartier qu'on appelle le quartier juif a été fondé? Alors là c'est intéressant, c'est des choses que j'ai apprises, que je n'ai pas apprises dans les cours que j'ai suivis sur l'histoire de l'ordre. Mais pourtant ce sera un chapitre à étudier. Moi je ne suis pas historien, je vous dis un peu en vrac simplement ce que j'ai recueilli à droite et à gauche, dans le but de stimuler, la recherche de mes frères qui sont historiens de l'ordre. Il y a un rapport entre ce quartier juif et puis les polémiques judéo-chrétiennes du Moyen-Âge. Vous savez que l'Inquisition n'a pas été fondée pour les juifs, c'était pour les hérétiques. Les juifs avaient un statut de religio dicita. L'Empire, lorsqu'il s'est converti au christianisme, a gardé ce statut de religio dicita. Mais alors, ce sont les juifs intégristes de Montpellier qui, pour la première fois, ont demandé aux inquisiteurs d'intervenir dans les affaires juives en demandant qu'on condamne les œuvres, qu'on brûle les œuvres de Maïmonide, le fameux Rambam dont on a parlé à Tibériade. Ce personnage d'une très très grande envergure. Et c'est là que la première fois à Montpellier, les inquisiteurs dominicains qui commençaient à travailler dans ce secteur-là ont été amenés à s'intéresser au judaïsme. Alors après ça, il y a eu pas mal de conversions et des juifs qui devenaient dominicains et qui, sachant l'hébreu, mettaient le doigt sur tout ce qu'il peut y avoir de sarcastique dans le Talmud sur les personnes de Jésus, la Sainte Vierge, etc. Et alors le Talmud a été solennellement brûlé au temps du bon roi Saint-Louis, qui d'ailleurs n'était pas tendre pour les juifs. Il dit qu'il ne fallait pas discuter, mais les transpercer. Il faut assumer tout ça. C'est comme ça. Pour dépasser, il faut assumer. Bon. Et alors, après avoir brûlé le Talmud, les dominicains l'ont étudié. Il y a même un certain Raymond Martin qui connaissait tellement bien le Talmud qu'on se demande s'il n'était pas juif d'origine, parce qu'il a une connaissance du Talmud comme seuls les juifs peuvent l'avoir. Il a fait le Pugio Fidei. Ça, on a entendu parler dans les cours du Père Duval, le Pugio Fidei. Et alors, des juifs devenus dominicains ont provoqué des grandes querelles théologiques. Et c'était à une époque où les foules se passionnaient pour ce genre de choses, comme maintenant pour le football. Et alors, une des plus célèbres querelles a eu lieu à Barcelone. Alors, du côté chrétien, c'était un dominicain d'origine juive qui s'appelait Pablo Cristiani. On a toutes les minutes de la dispute là. Alors, les juifs qui n'avaient pas tellement envie de discuter, celui qui les a représentés, c'est un certain Rambam, pas comment avec Rambam, Astruc d'Aporta. Je peux vous donner les dates ici. Il a vécu de 1194 à 1270 à Barcelone. Alors, on devait discuter et puis le roi donnerait le prix à celui qui remporterait la victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le dominicain qui a été mis en boîte. Et alors là, il y a une constante dans la polémique judéo-chrétienne, moi j'ai suivi des séminaires là-dessus, c'est que d'emblée, tandis que le chrétien fait une belle démonstration pour montrer que tout ça progresse à la plénitude des temps comme une symphonie vers son accord final, le juif d'emblée refuse. Hein. Et alors se met à l'extérieur, et puis assène de l'extérieur des arguments grossièrement rationalistes, pas contre l'incarnation, contre la Trinité, contre la Sainte Vierge, tout ça. On voit déjà ça au temps de Cels, cet intellectuel là, païen, qui s'amuse à mettre en présence à un juif et à un chrétien. Origène raconte ça. C'est déjà comme ça. Puis l'État de Dot Yeshou, il paraît qu'on a fait une reddition en France, mais j'ai vu des recensions, des coupures qu'on va envoyer. Bon, on va envoyer les gens. C'est pas beau l'un à côté de l'autre, cette polémique. J'ai mis le nez là-dedans, j'ai même trempé là-dedans pendant des mois. Alors, c'est ce Ramban, il y en a eu une encore plus célèbre à Tortose après. Bon, mais je bande à celle-là. Parce que on a donné la palme à ce truc d'apporta, à Ramban. Mais alors la rancune des vaincus a poursuivi ce truc d'apporta. Et c'est comme ça qu'il est venu à Jérusalem. Alors les croisés étaient partis, les avant-gardes, les charismiens, les avant-gardes des Mongols étaient arrivés jusqu'à Jérusalem. Le nord, les marécages, le sud, le désert, Jérusalem complètement détruite. Alors il arrive, et dans le quartier, justement, le quartier actuel, complètement démoli, trouve une maison dont les murs étaient encore debout. Il a décrit dans sa correspondance qu'il a avec sa famille, et il choisit ce quartier-là parce qu'il est près du mur des Lamentations, et c'est le noyau de ce quartier juif qui va se développer à travers les siècles, qui va être abandonné alors en 48, et qui va être reconquis en 67, et qui est maintenant reconstruit. Mais les architectes n'ont pu commencer à travailler quand les archéologues étaient passés. Et quand les archéologues ont découvert quelque chose d'intéressant, les architectes doivent se débrouiller pour qu'on puisse accéder, et c'est passionnant. Actuellement, il faudrait que les programmes de pèlerinage alors se transforment pour que les chrétiens puissent voir non seulement les lieux saints traditionnels, mais aussi tout ce qui a été découvert de passionnant à Jérusalem. Et c'est aussi admirablement mis en valeur. Et d'ailleurs, ils sont en admiration, chose curieuse, le Cardo Maximus, c'est plutôt Justinien, une admiration pour ce qu'a fait Justinien. Et ce qui sert aux chercheurs, c'est la fameuse carte de Badabar, qui est un document chrétien du 6e siècle, qui montre la Jérusalem de l'époque byzantine. Et on a retrouvé des absides de la grande basilique de Justinien, qu'on appelait la Néa, au temps du concile d'Éphèse. Et Justinien voulait quelque chose qui soit plus beau que le temple d'Hérode dominant tout le paysage. Et le Cardo Maximus, alors, était construit en fonction de cette basilique justinienne. Alors là, cette polémique judéo-chrétienne, il y a des constantes là. Et revenons à ce truc d'important. Avant lui, revenir à Jérusalem pour un juif, c'était tellement impossible, tellement difficile que on transposait ça dans le domaine de la scatologie. Et quand un mari, par exemple, décidait d'aller à Jérusalem, sa femme n'était pas obligée de le suivre d'après les casuistes juifs de l'époque antérieure. Mais alors lui, il arrive devant cette Jérusalem abandonnée, détruite, livrée complètement tout en ruine, et il fait une obligation personnelle à tous les juifs du monde entier de revenir à Jérusalem, non pas seulement pour y prier et pour y mourir, mais pour la reconstruire, pour la reféconder et pour lui redonner la splendeur qu'elle avait à l'époque biblique et que chante les cantiques des cantiques. Alors c'est intéressant parce qu'on voit en lui une espèce de précurseur du sionisme moderne. Et oui, l'espérance projetée dans l'eschatologie redescend sur terre avec lui. Et alors, chose curieuse, il y a un clivage, parce qu'en christianisme, l'échec des croisades a été un véritable traumatisme. La bataille de Hattin, qu'on a raconté au camp de Hattin, l'a pas gagné quand Saladin a mis par terre le royaume franc de Jérusalem, les croisades s'en sont jamais remises. Et alors, on est passé des croisades à la mission, et par une sorte de sublimation. Et on voit les missionnaires partir les mains nues, et certains rêvent d'aller convertir jusqu'au Grand Mongol. Il y a eu des cours à la Sorbonne, il y a une vingtaine d'années là-dessus, sur les grands voyageurs là, qui partaient vraiment, on croit les mains nues. On se demande si c'est vraiment évangélique de vouloir conquérir la Terre Sainte par les armes, et alors les chrétiens réfléchissent sur le sujet, et on voit une espèce de mutation. On passe de la croisade à la mission. Et je crois que c'est le premier pas d'une série, de la mission, on passera au dialogue, et puis avant d'entamer le dialogue et de casser les oreilles des autres, on étudiera, on essaiera de rentrer un peu dans leur subjectivité pour la respecter, et puis de voir pourquoi ils pensent comme ça. Il y a toute une série de sublimations qui déclenchent le clivage. Je ne sais pas, pour moi c'est un problème qui m'intéresse. J'ai une vieille fiche ici que j'ai rédigée, plutôt que j'ai trouvé dans la revue Esprit de Domnac, qui écrit toujours, je crois, en France actuellement. Je vais vous la lire et puis vous dire en quoi je ne suis pas d'accord et en quoi je suis d'accord.
Voilà ce que dit Dom Dac.
Bah, il parle de la géothéologie. Hein. Quand on fait la Bible sur le terrain, ça ne peut pas ne pas, pas être interpellé par ce qu'il dit là. Il n'existe pas de foi que je puisse autant comprendre sans la partager que la foi d'Israël dans la terre promise. Moi, je la comprends et je la partage un peu. Aussitôt après avoir dit qu'en vérité la géothéologie est fausse, abolie, anéantie dans la bonne nouvelle universelle, ça, je suis contre. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Comment est-il venu accomplir? Alors là, moi, je crois qu'il faut aller plus profond pour rebondir par-delà les impasses, le chrétien. Mais il n'est pas venu abolir. Je me sens contraint de dire, alors là, je crois que c'est que l'existence des hommes qui continuent de croire à cette géothéologie n'est plus proche qu'aucune existence. Pour deux raisons. D'abord, parce que sans la géothéologie de la terre promise, moment maintenant dépassé, ok, je ne serai rien. L'Israël d'aujourd'hui, c'est la descendance des prophètes qui ont donné la Bible au monde. Et cette descendance des prophètes ne peut constituer un peuple comme les autres. Je suis avec elle dans un rapport insolite et hyper politique, métaphysique au sens d'André Néer. L'Israël d'aujourd'hui est dans le prolongement de l'Israël qui est ma mémoire. Et puis je suis dans un autre rapport avec Israël. J'appartiens aux nations qui ont persécuté la descendance des prophètes. Même si personnellement je n'ai pas pris part à ce crime, je suis solidaire des États, des églises, de la chrétienté sociologique qui sont coupables des massacres, des déportations, des tortures, des humiliations qui jalonnent l'histoire d'Israël depuis sa dispersion et qui sont un facteur décisif de sa prise de conscience comme peuple exilé loin de sa terre essentielle. Alors je soulève des problèmes beaucoup plus que je n'en résous, mais je le fais exprès à cette étape de la BST parce que le dimanche après-midi, là, on a l'habitude d'aller voir Marcel Dubois. Et alors, les gens éveillés, toutes ces questions-là, ont l'occasion de lui demander des précisions. Et il a une méthode tout à fait extraordinaire. En 2h30, il arrive à brosser tout un tableau de la complexité actuelle qu'il analyse avec un cerveau que je n'ai pas.
Tenez, on va traverser ce quartier juif. Là, c'est le Shabbat qui est en train de se terminer. Et en passant sur la Grand Place, on va voir comme une invitation à lire un chapitre du prophète Zacharie, le chapitre 8. Vous l'avez peut-être déjà lu dans des cercles bibliques en France, mais je voudrais vous faire une petite expérience. Enfin, vous lisez ce texte en France, bon, très bien, vous passez, bien, vous partez dans un sens tout de suite spirituel. Ici, vous traversez ce quartier, vous lisez le chapitre en question et puis ça pose une question. Comment des textes écrits il y a tant de siècles peuvent-ils refléter une réalité si actuelle? Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. J'éprouve pour Sion une ardente jalousie et en sa faveur une grande colère. Ainsi parle le Seigneur. Je reviens à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée ville de fidélité et la montagne du Seigneur Sabaoth, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Des vieux et des vieilles s'assieront encore sur les places de Jérusalem. Chacun aura son bâton à la main à cause du nombre de ses jours et les places de la ville seront remplies de petits garçons et de petites filles qui joueront sur les places. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Si c'est un miracle aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, en serait-ce un, messieurs, oracle du Seigneur Sabaoth? Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Voici que je sauve mon peuple des pays d'Orient, des pays du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu dans la fidélité et la justice. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes. De même que vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai pour que vous deveniez une bénédiction. Ne craignez point, que vos mains se fortifient. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. De même que j'avais résolu de vous faire du mal lorsque vos pères m'avaient irrité, dit le Seigneur Sabaoth, et que je n'ai pas fléchi, de même, me ravisant, je me propose en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point. Voici les choses que vous devez pratiquer. Que chacun dise la vérité à son prochain. À vos portes, rendez une justice qui engendre la paix. Ne méditez pas en vos cœurs du mal l'un contre l'autre. N'aimez pas le faux serment, car c'est tout cela que je hais, oracle de Dieu. La parole du Seigneur Sabaoth me fut adressée en ces termes. Il viendra encore des peuples et des habitants de grandes villes. Et les habitants d'une ville iront vers l'autre en disant, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth. Pour ma part, j'y vais. Et de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur Sabaoth à Jérusalem et implorer la face de Dieu. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement en disant, nous voulons aller avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Traversons ce quartier. Et en sortant du quartier juif, là, aux environs du Tétrapile, l'endroit où se croisaient les deux rues principales d'Elia Capitolina, il est actuellement dans un café, il y a un billard. Hein. Et alors on peut monter sur une terrasse à proximité, et de là on va voir, on va recouper le paysage ce matin. On va voir le Saint-Sépulcre, et puis il est perpendiculaire au Gardo Maximus, et puis on va regagner la porte de Jaffa, et puis la maison, je crois qu'on a assez dit pour aujourd'hui. Et puis on va se préparer demain à continuer ce circuit géologico-liturgique, là, et on s'arrangera pour être vers 8h du matin, quand le soleil est à l'est, là, sur le flanc du Mont des Oliviers, il y a de beaux jardins qui sont là, pour contempler Jérusalem dans sa plus belle lumière, au lever du soleil, pour chanter les laudes.